Ah, Seigneur Jésus, sois béni pour cette prédication de ce soir. Merci, mon Dieu, je suis dans la joie de pouvoir dire ce que j'ai à dire. Ça fait tellement longtemps que j'ai ça sur mon cœur et je te remercie, mon Dieu, de permettre que cela puisse être dit et que cela puisse bénir ton peuple, ceux qui t'aiment et qui cherchent, qui sont sincères. Tu as dit que ceux qui cherchent trouvent. Eh bien, il y a tellement de gens, je sais, qui sont dans les églises et qui cherchent, qui ne trouvent pas parce que ils ne savent pas où chercher. Je te remercie, mon Dieu, de servir de moi pour éclairer ceux qui viennent écouter ce message ce soir. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.
Amen.
Alors, dans ma prédication du 25 mars 2016, vous vous souvenez, le titre c'était La pierre de Daniel. C'était la deuxième prédication sur la pierre de Daniel. Je vous démontrais que la Bible n'est pas infaillible, que la parole de Dieu c'est Jésus. C'est une personne, ce n'est pas un livre. Et je vous donnais beaucoup de textes bibliques qui portent la marque humaine. Hein, vous vous en souvenez, je ne veux pas vous refaire cette prédication. Si vous ne l'avez pas écoutée, eh bien, allez l'écouter. Je vous ai démontré que prétendre que la Bible est infaillible, c'est une absurdité, c'est même un acte idolâtre. Et le livre n'est pas divin. Le livre n'est pas divin. Ce livre, la Bible que j'aime, c'est un témoignage de Jésus-Christ sans lequel, eh bien, nous ne saurions rien au sujet de l'amour de Dieu, on ne saurait rien au sujet du plan du salut, de la rédemption, on ne saurait rien au sujet de notre vie d'avant et d'après. Bon, voilà. Mais ce livre n'est pas infaillible. Il y a des contradictions, il y a des erreurs et nous devons les reconnaître comme telles. On n'a pas à faire les vierges effarouchées. Non, on doit répondre de notre foi avec douceur. Et oui, bon voilà, il y a des boulettes. Voilà. Et je ne vais pas vous prêcher ce message. Vous avez qu'à aller, si vous ne l'avez pas entendu, vous allez l'écouter. C'est le message qui est sous la date du 25 mars 2016. Ça s'appelle La pierre de Daniel numéro 2. Alors, je pense que ça serait bien que vous l'écoutiez avant même de. Si vous n'avez pas écouté celui du 25 mars, arrêtez d'écouter celui-là et allez écouter celui du 25 mars et ensuite revenez écouter celui-là, sinon vous allez être un petit peu désorienté. Et vous allez avoir une très mauvaise impression en écoutant ce que j'ai à vous dire ce soir. Parce que j'aime la Bible, mais elle n'est pas divine. Seul Dieu est Dieu. Déjà que il y a des gens qui pensent qu'il y a trois dieux. Alors maintenant, il y en a qui pensent que Marie est divine, et puis la Bible aussi, elle est divine maintenant. Non, il faut arrêter avec ça. Ceux qui prétendent que leur livre est parfait sont des fanatiques. Les musulmans fanatiques sont dangereux, les chrétiens fanatiques sont dangereux. De plus, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Par exemple, je regardais et j'écoutais les chrétiens qui argumentaient contre le mariage gay, vous vous souvenez de cette période, et alors on les entendait, alors ils s'accordaient tous pour dire c'est une abomination, parce que c'est écrit que c'est une abomination, l'homosexualité et tout. Ils ont raison, ils ont raison. Par contre, si je leur dis qu'il est aussi écrit vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, car quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple, alors là, ils disent. Oui, mais c'est, voilà, la Bible, c'est une allégorie, vous voyez, il ne faut pas être fanatique, il ne faut pas la prendre à la lettre, voilà, gna, 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 hein. Et ils sont fanatiques pour ce qui les intéresse et pour ce qu'ils veulent bien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas que je sois pour le mariage gay, pas du tout, c'est juste pour donner un exemple. Alors, ils ne prennent que dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, ils ne prennent que ce qui les arrange. Bref. Je crois que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et je crois que la Bible est un témoignage de Jésus-Christ à l'humanité. Mais la question est, et on s'était arrêté là la dernière fois, est-ce que la Bible est le seul témoignage de Jésus-Christ à l'humanité? C'est là qu'on va commencer ce soir. Déjà, il y a la nature. La nature rend témoignage de la puissance, de la gloire, de la sagesse de Dieu. Et puis, en tant que chrétien, vous vous rappelez, pendant un temps, on a fréquenté les branhamistes et on a trouvé beaucoup de choses très intéressantes chez eux. On ne va pas nier ça. Le prophète Branham a reçu de Dieu un témoignage qui met en ordre beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Par exemple, quand vous lisez le livre des sept âges de l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui tapent sur Branham, ils n'ont même pas lu ce livre. Ils ne savent rien du tout. Il faut lire avant de critiquer, avant de répéter bêtement ce que les autres disent. Ou le livre des sept sceaux, il faut lire ça. Si on ne lit pas ça, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dire Branham est un faux prophète. Il faut savoir. Il y a d'autres livres, il y a la brochure, la stature d'un homme parfait. Qui c'est qui peut aller critiquer une brochure pareille? C'est une prédication extraordinaire. Voilà par exemple des textes qui sont des véritables témoignages à la gloire de Jésus-Christ. Oui ou non? Oui. Alors les dénominations chrétiennes, elles sont dans une grande confusion. Et le prophète a mis de l'ordre dans beaucoup de choses. Maintenant, quand on est allé chez les Branhamistes, on a été choqué de constater que dans leurs églises, on donnait autant d'importance aux brochures de frère Branham qu'à la Bible. Vous vous rappelez, quand on allait là-bas, on voyait le pasteur qui arrivait avec une pile de brochures sur l'estrade, et puis frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit, c'était devenu un... C'était tuant. Il prêchait plus Branham que la Bible. Si frère Branham a dit une chose, c'est que c'est vrai. Or, quand même, nous avons relevé pas mal de choses très humaines et même erronées dans ses sermons. Et je ne peux pas dire que tout ce que frère Branham a dit est parole de Dieu. Il faut arrêter. La Bible nous dit que si on prend la Bible elle dit qu'il y avait un possédé à Gadara, et puis dans un autre évangile, dans Marc, il y en a deux. Alors, ok, l'erreur est humaine. S'il y a des erreurs dans la Bible comme ça, ou alors au sujet des aveugles, hein, près de Jéricho, il y en a deux dans un évangile, puis l'autre, il nous dit qu'il n'y en a qu'un. Bon, alors, lequel ment? Est-ce que c'est un mensonge? Bon. Si dans la Bible, il y a des trucs comme ça, à combien plus forte raison dans les brochures de frère Branham ou de n'importe quel autre pasteur, serviteur de Dieu, même chez moi, vous allez trouver des trucs bizarres, vous n'allez pas me taxer de, enfin j'espère, de posséder ou de satanique à cause de ça. C'est des erreurs humaines, et quand frère Branham dit par exemple que les femmes ont une côte de plus que les hommes, vous savez, parce que Dieu a pris une côte à l'homme pour former la femme, alors il dit, voilà, vous voyez, c'est... Hein? La parole de Dieu, la Bible a raison, les femmes, tout le monde le sait, elles ont une côte de plus que les hommes. Pauvre frère Branham. Non, c'est faux ce qu'il dit là, c'est une erreur humaine, et je l'accepte comme telle. Et puis je me dis, bon, mais voilà, le frère Branham, il n'a pas été compté les côtes de sa femme. Et il n'a pas compté les siennes non plus. Enfin, voilà, mais ce n'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de croire que c'est un prophète de Dieu. Et je continue à dire que il n'y a que Dieu qui est parfait, et Jésus-Christ est la seule vraie parole de Dieu qui s'est incarnée. Voilà, point barre, c'est compris. Et voilà pourquoi je ne peux pas suivre les Branhamistes. Je ne peux pas. Je suis allé encore dernièrement dans une convention pastorale. Alors heureusement, il y avait un frère, là, le frère Le Picard, qui était le modérateur, qui est un homme doux, gentil, calme, pas énervé du tout, et pas fanatique du tout, et il avait une clochette. Il a dit, quand ça commencera à chauffer, je sonnerai la clochette et l'orateur devra se taire immédiatement. C'est ce qu'il a fait. Mais il l'a fait souvent, hein. Il est obligé, parce que tout de suite, il y en a qui ramènent leurs fraises. Et puis, c'est terrible. Donc, quand je lis les autres bouquins, les bouquins, par exemple, de frère Osborne, qu'est-ce que je vois? Je trouve qu'il enseigne bien ce qui concerne la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est un autre témoignage aussi de Jésus-Christ. Maintenant, je n'idolâtre pas frère Osborne pour autant. De même avec Billy Graham, et avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Le premier livre chrétien que j'ai lu, en fait, c'est un livre de Billy Graham. Je n'étais pas encore chrétien et j'avais trouvé ça, La paix avec Dieu. C'est un livre formidable. Voilà, mais chacun de ces serviteurs de Dieu apporte un éclairage sur la personne de Jésus, et ce sont donc des autres témoignages de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Et puis certains ne comprennent pas les choses de la même manière que d'autres. Alors des fois, ils se contredisent, par exemple, surtout au sujet du baptême. Hein, les protestants baptisent les enfants. Et je vous assure qu'ils s'appuient sur la Bible. Hein. Moi, je peux vous montrer, je peux vous prêcher le baptême des enfants en m'appuyant sur la Bible. Mais vraiment, hein. Et vous allez tous dire, ah bon, tiens, on n'avait jamais vu ça comme ça. Et puis les pentecôtistes, moi je suis né de nouveau chez les pentecôtistes, eh bien les pentecôtistes, ils baptisent les adultes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ne se basent pas sur la Bible? Bien sûr qu'ils se basent sur la Bible, hein, c'est bien écrit, hein. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit, donc ils se basent sur la Bible. Et puis les bonhamistes, eux, ils baptisent les adultes, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils se basent aussi sur la Bible. Acte 2, 38, je crois, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus. Donc voilà, il n'y a plus de question de Trinité là. Ah, alors, ils s'appuient sur la Bible. Alors, qui a raison? Qui a raison? Tous sont sincères, mais ils ne peuvent pas tous avoir raison. Il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas 150 vérités. Hein. Jésus dit, je suis la vérité. Il est lui la vérité. Voilà. Les autres, bon, ils cherchent, ils tâtonnent. Il y en a qui sont plus près que d'autres de la vérité et tout. Ben, c'est tout. Et on ne doit pas diaboliser quelqu'un et dire, voilà, oh il ira en enfer parce que il l'a pas baptisé, il l'a pas baptisé avec la bonne formule et tout. Si Dieu est mesquin comme ça, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Alors, pour beaucoup de choses, c'est ainsi. Tous s'appuient sur la Bible. Et tous disent qu'ils ont raison et qu'ils sont l'Église, la vraie Église, etc. Mais ils ne peuvent pas tous avoir raison. Donc, où est-ce que nous, on en est, nous, ici, de la communauté du sanctuaire? Où est-ce qu'on en est? Eh bien, nous sommes plus protestants que catholiques, ça c'est certain. Mais nous sommes plus baptistes que protestants, parce que nous croyons plus dans le baptême à la façon baptiste que à la façon protestante. Mais nous sommes plus pentecôtistes que les baptistes, parce que nous croyons dans les dons surnaturels, alors que les baptistes, eux, n'y croient pas vraiment. Mais nous sommes plus branhamistes que les pentecôtistes, parce que Branham nous a fait comprendre des choses que les pentecôtistes refusent complètement, et pourtant que c'est dans la Bible. Alors, nous avons pris ce qu'il y a de meilleur dans chacune de ces religions, et parce que nous ne pouvons pas être protestants, ça ne nous suffit pas. On ne peut pas être baptiste non plus, ça ne nous suffit pas. On ne peut pas être pentecôtiste, ça ne nous suffit pas. Et ou branhamiste, ce n'est pas possible. Je vous ai expliqué pourquoi. On n'est pas sectaire. Tous ces gens-là sont nos frères, nos sœurs, mais on ne peut pas adhérer et dire, voilà, c'est eux qui ont la vérité. En fait, le Seigneur nous a fait comprendre que nous ne devions pas nous joindre à une église en particulier parce qu'elles ne sont pas son église. Elles sont les églises des luthériens, l'église des calvinistes, l'église des baptistes, l'église des assemblées de Dieu, l'église des branhamistes, l'église des quakers, l'église de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Aucune est l'église de Jésus-Christ. Il y a des membres de l'église de Jésus-Christ dans toutes ces religions, mais l'Église en elle-même, non, elle n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Alors on a jeûné, on a prié, et comme le Seigneur bénit ceux qui cherchent et qui refusent de faire des compromis, et qui sont sincères et qui demandent la sagesse, ben, Dieu la leur donne. Un jour, on a fini par trouver des choses, on a compris comment est-ce qu'il fallait vivre la vie d'Église, et on a commencé à vivre en communauté. Ça, c'était en 77. Et puis des gens sont venus, nous ont rejoints, comme Edith Ruiz, qui s'appelle Volkoff maintenant, son mari Jean et Simone, et comment il s'appelle, Richie, Eric Ruiz, son épouse Sandrine, et combien d'autres encore. Et voilà, et puis plein, et puis vous tous là. Et puis, un jour, j'ai trouvé une prophétie qui a été donnée dans les années 1870 et qui annonce, et cette prophétie-là annonce, dans les années 1870, hein, 1870, elle annonce le ministère de William Branham. C'est Frère Branham qui en parlait, qui parle de cette prophétie. Il en a parlé le 9 mai 1951 à Los Angeles, Californie, dans une prédication qui s'appelle « Croyez-vous que je peux faire ça ?» Alors, cette prophétie, je ne veux pas vous lire tout parce que c'est un petit peu long, mais tout cela, ça sera par écrit sur le site Révélation Bible très bientôt, d'ici quelques semaines, même quelques jours peut-être, on va voir. Alors, donc, il était en train de faire une réunion, puis il y a quelqu'un qui ne voulait pas venir dans la ligne de prière. C'est quelqu'un qui avait un livre sous son bras et qui disait « Frère Branham, vous êtes dans la mauvaise église. » Et puis il dit, Branham dit, je ne savais pas de quoi il parlait, et il a mis le livre sous mon bras, il lui a donné le livre. Il dit, je ne savais pas de quoi il parlait, il a mis son livre sous mon bras, et c'était un livre qui s'appelait La parole de Dieu mormon. Hein, donc c'était le livre de Mormon. Et il dit, je ne sais pas ce que c'était. Alors vous savez comment c'est écrit dans les brochures de Frère Branham. Alors c'est écrit, c'est un. De leurs prophètes des saints des derniers jours, quelques groupes d'entre eux qui prétendent voir les néophytes et là derrière une centaine et il y a beaucoup, le temps était-il, 3 points de suspension, enfin vous connaissez les brochures de Frère Branham, c'est difficilement lisible parce que les Branhamistes ils sont comme ça, ils veulent être tellement fidèles à ce que le prophète a dit que si le prophète bafouille, ben, ils écrivent comme il a bafouillé, c'est-à-dire c'est plein de points de suspension, entre parenthèses, de non, je voulais dire, enfin j'ai dit, attendez, il s'agit plutôt de, ben, plutôt que de mettre ça en bon français ou en bon anglais, non, il dit, on ne veut pas trahir la parole du prophète. Alors, dans une certaine page, là, et il dit, j'ai le livre de ma librairie, il prophétisait, donc leur prophète prophétisait, et il dit, dans les derniers jours, l'Allemagne aura un isme appelé nazisme. Et en avançant, il dit, en ces jours, il y aura W-I-L-L-I-A-M, William Branham, appelé et mis à part en humilité pour le service auquel je l'ai appelé. C'est ça. Écrit des années, mes amis, je peux rester ici des heures en disant des choses qu'il a faites. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que j'essaye de dire que... Enfin bon, alors, il parle, et il dit que, donc, mon serviteur William Branham, mis à part, en tant qu'ancien, qu'il soit très humble, cette prophétie continue à dire, qu'il soit très humble et prêt à l'obéissance, et la plus grande portion de l'esprit viendra sur eux, donc sur lui et d'autres personnes qu'il cite, dont il parle aussi, pour conduire la voie. Laissez-les être au travail puisque le Seigneur a entendu leur prière. Voilà, donc c'est le témoignage prophétique d'un mormon. Alors moi j'ai lu tout le livre de Mormon, je n'ai pas trouvé cette prophétie dans le livre de Mormon. Par contre, il dit que c'était sur un bout de papier jauni, une feuille jaunie. Donc je pense que cette prophétie, cet homme qui lui a donné le livre de Mormon, il avait glissé cette prophétie, cette vieille prophétie, ce qui était une page jaunie dans le livre. Et Frère Branham en fait mention. Alors maintenant, est-ce que Branham dit la vérité? Ben, je le crois. Pourquoi est-ce qu'il va dire quelque chose de... hein? Alors, il y a un autre jour, alors qu'il prêchait, Branham a dit, voilà, je fais comme les Branhamistes, Branham a dit, c'est dans le livre de la Révélation des Sept Sceaux, en 63, à la page 6, il dit, « Il se pourrait que quelques frères et sœurs mormons soient présents ou bien reçoivent ces bandes. » Vous voyez, il parle des mormons comme des frères et sœurs. Allez demander à un pentecôtiste si les mormons sont des frères et sœurs. Ils vont vous dire non. Ils vont vous dire non. Et il dit, si vous faisiez la connaissance des mormons, vous verriez que ce sont des gens très bien et leurs prophètes que les méthodistes tuèrent ici en Illinois pendant un voyage était un homme très bien. Voilà le témoignage que William Branham donne au sujet de Joseph Smith et des mormons. Donc, les mormons témoignent de lui dans une prophétie des années avant la naissance de William Branham, en citant le nom de William Branham. Et puis voilà que William Branham, lui, au cours de son ministère, il les reconnaît comme frères et sœurs. Alors, que dire de tout ça? Eh bien, pour ma part, après avoir prié le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, demandant que le Saint-Esprit de vérité me montre la vérité, puis il a dit « je vous conduirai dans toute la vérité », J'en suis arrivé après 17 ans d'études du Livre de Mormon, parce que j'ai pas, je vous dis pas un truc que j'ai découvert la semaine passée. Ça fait 17 ans que j'ai trouvé ce livre, qu'on m'a offert ce livre. Et bien après 17 ans d'études, pas, je n'ai pas juste lu deux, trois passages, 17 ans d'études du Livre de Mormon, j'en arrive à dire que je l'aime. J'aime ce livre. Je ne comprends pas tout, mais je reste humble, comme devant la Bible. Je ne comprends pas tout ce que la Bible dit. Je serais très étonné qu'il y ait un homme ou une femme qui me dit « je comprends tout ce que la Bible dit ». Moi, je ne comprends pas tout ce que la Bible dit. Je ne comprends pas non plus tout ce que le Livre de Mormon dit. Je ne comprends pas toujours tout ce que tout le monde dit non plus. Voilà, c'est peut-être parce que je suis bête, je ne sais pas. Enfin, je reste humble et je ne rejetterai jamais un livre. Je crois en tout cas que Dieu a inspiré Joseph Smith en son temps. Et dans le livre, je ne peux pas jeter un livre parce que j'y trouve des trucs bizarres. Si je dois jeter tous les livres où il y a des trucs bizarres, ben je jette la Bible. Je jette la Bible, je suis désolé. Je vous ai donné des tas de textes hein, qui vous montrent des contradictions dans la Bible. Si je dois jeter un livre parce qu'il y a des contradictions dedans, je jette la Bible. Alors je ne jetterai ni la Bible, ni le Livre de Mormon, ni aucun autre livre. Non, je suis désolé. Dans le livre de Daniel, donc dans la Bible, il est écrit que le Dieu des cieux suscitera dans les derniers jours un royaume qui ne sera jamais détruit. On va lire ça dans Daniel 2, 4. Il y a Robert qui nous a fait toute une étude là-dessus, qui est très bien. Alors, Daniel 2, 44, c'est donc Daniel qui donne l'interprétation du songe qu'a eu le roi. Et c'était le songe de la statue, vous connaissez tous. Et si vous ne connaissez pas, ben vous lisez Daniel chapitre 2. Et alors au verset 44, c'est dit, c'est l'interprétation du songe, il y a à l'époque de ces rois, on va voir quel roi, de quel roi il s'agit, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Voilà, ça c'est donc c'est ce que le livre de Daniel dans la Bible dit. Alors, il dit à l'époque de ces rois. De quel roi il parle ? À l'époque du. Nous sommes maintenant à l'époque du royaume de la mondialisation. C'est la fin des nations, ça veut dire que ce n'est plus les nations maintenant. Bon, il existe toujours des nations, mais c'est dirigé par un groupe de bonhommes et de bonnes femmes qui ont divisé le monde. Et ce sont 10 rois, c'est-à-dire que c'est 10 régions qui existent dans ce monde. Vous trouvez ça sur Internet, partout. Ça, c'est les 10 orteils de la statue de Daniel. Les 10 orteils de la statue de Daniel, c'est les 10 biorégions, on appelle ça comme ça maintenant. Et les grands de ce monde ont donc divisé le monde en 10 régions. Eh bien, à l'époque de ces rois-là, c'est-à-dire à notre époque, à l'époque où, où le monde sera divisé en 10 régions, moi je me rappelle, quand l'Europe avait 10 nations, on disait, voilà, ça y est, on y est arrivé. Puis quand il y en a eu la 11e, on a dit, oups, hein, c'est plus ça. À l'époque de ces 10 rois-là, surgira un royaume qui ne sera jamais détruit. Quel est ce royaume, sinon celui de Jésus-Christ? Son royaume durera éternellement et... C'est une pierre qui va se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure, sans aucune intervention humaine. Et cette pierre, elle va briser les gouvernements mondiaux corrompus. Tant mieux. Hein, vous avez vu là en ce moment ce qui se passe avec le Panama machin. Mon Dieu, là, ils en prennent plein le groin. Ça fait bien plaisir. Et mes frères et sœurs, cette pierre, c'est la pierre, c'est toujours dans la Bible, c'est la révélation. C'est la révélation de l'Église de Jésus-Christ. Il est en train de révéler son Église. Et l'Église de Jésus-Christ, elle est composée de qui? Elle est composée des saints qui vivent aujourd'hui. Et comme nous savons que nous sommes dans les derniers jours, eh bien, Jésus est en train de révéler que son Église, c'est l'Église des saints des derniers jours. Est-ce que vous êtes de ces saints-là? C'est que les saints, ce n'est pas les morts, comme l'Église catholique dit, ça c'est archi-faux. Toute la Bible dit que les saints, ce sont ceux qui suivent le Seigneur, qui sont bien vivants. Hein, l'apôtre Paul écrit aux saints qui sont à Rome, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont. Les saints. Vous êtes des saints si vous êtes des gens qui vous avez été mis à part par Dieu, vous vous êtes mis à part pour Dieu. Et vous vivez dans la mise à part pour le Seigneur. Vous êtes des saints, vous êtes dans l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes saints si vous croyez l'Évangile rétabli en ces jours de la fin. Pas si vous faites partie de tel et tel club chrétien, protestant, baptiste, pentecôtiste, tout ça c'est des églises, c'est des clubs chrétiens. Ils sont très bien, ils sont très gentils, il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous des saints. Des saints des derniers jours, c'est-à-dire des saints qui acceptent la parole révélée dans ces derniers jours, qui acceptent cette pierre jetée par Dieu, cette révélation jetée par Dieu lui-même. Il faut que vous receviez la révélation que Jésus donne aux siens, c'est-à-dire aux saints d'aujourd'hui. Si vous êtes un chrétien, mais que vous croyez seulement la doctrine luthérienne, bon, vous êtes chrétien, vous serez sauvé, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, vous ne ferez pas partie vous ferez pas partie de l'élite dans le royaume de Dieu. Vous serez, voilà. Il y a des degrés de gloire, je vous l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit. Cette pierre, c'est la pierre de la révélation qui a été donnée à un gamin de 14 ans dans un bois alors qu'il cherchait la sagesse de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, il y avait plein d'évangélistes qui tournaient et tous disaient, c'est moi qui ai la vérité, venez dans mon église. Et puis, voilà, puis tout. Alors lui, il ne comprenait pas bien. Il avait un frère et son frère est décédé avant d'être baptisé. Et un pasteur est venu vers ce gamin qui avait 14 ans, qui était en train de pleurer vers la tombe de son frangin. Il lui a dit, ben, ton frère est perdu, mais toi, tu peux encore être sauvé. Il faut que tu te fasses baptiser dans mon église. Ça, c'est bien de ces cochons de religieux. Pardon, pardonne-moi Seigneur, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est abominable, ces gens-là sont abominables. Donc ce gamin était confus, il ne savait pas dans quelle église il fallait aller, parce qu'il entendait toutes les contradictions, il allait à plein de réunions, il entendait que tous ses pasteurs se contredisaient. Et un soir, il est tombé sur le passage dans Jacques qui dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu qui lui donnera sans faire de reproche. Alors il a dit, ben, je vais le faire. S'il y en a un qui manque de sagesse, c'est bien moi. Et donc il est parti, derrière chez lui, il y avait un bois, il est allé prier et puis il a cherché, il cherchait la sagesse. Et cette pierre, cette révélation lui a été donnée et elle est en train de devenir une montagne qui remplit toute la terre, mes frères et sœurs. Alors que dire aujourd'hui, nous qui sommes de la communauté du sanctuary, que dire? Eh bien, nous sommes plus protestants que catholiques, mais nous sommes plus baptistes que protestants, vous avez compris pourquoi. Et nous sommes plus pentecôtistes que baptistes, nous sommes plus branhamistes que pentecôtistes, et maintenant je dis nous sommes plus mormons que branhamistes. Parce que oui, Dieu s'est révélé au travers des âges, et cela a toujours causé des divisions, et ça a aussi causé une division chez nous. Là, cette division qui existe chez nous, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Mais c'est normal. C'est normal. C'est toujours arrivé comme ça. L'histoire de l'Église a toujours été comme ça. Dieu donne une révélation, division. les protestants ont dû sortir du catholicisme, c'est plus possible. Et ensuite, les baptistes, ben, ma foi, ils ont créé leur truc parce qu'ils étaient insultés, etc., etc., etc. Et nous, ben, nous sommes insultés, et c'est nous qui sommes obligés de partir, hein, en plus. Un peu comme les mormons à Novo ou à d'autres endroits qui ont été persécutés, qui ont été chassés, ils ont été tués, ils ont été massacrés. Enfin, c'est épouvantable ce qui leur est arrivé. Et l'histoire, enfin, nous, ils ne nous tuent pas encore. Peut-être que dans leur prière, ils souhaitent notre mort, mais enfin bon, en tout cas, ils ne peuvent pas nous tuer. S'ils nous tuent, ça serait vraiment grave. Mais je vous le dis, mes frères et sœurs, l'heure fixée, prédite par tous les saints prophètes, vous savez que la Bible dit que Jésus est au ciel jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé, ont tous parlé. Eh bien, l'heure fixée, prédite par tous ces saints prophètes, ça a été le printemps 1820. Lorsque Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus à ce petit gamin de 14 ans qui s'appelait Joseph Smith. Écoutez-moi bien et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ne soyez pas malhonnêtes. C'est par cette glorieuse révélation qu'a commencé à s'accomplir la parole prophétique d'Ésaïe par laquelle il a témoigné que le Seigneur accomplirait des prodiges et des miracles parmi les enfants des hommes. Ça, c'est Ésaïe, chapitre 29, 14. Alors, Ésaïe 29, 14. Alors, ce qu'elle est trop extraordinaire, c'est que ce texte, au verset 13, c'est le verset 13, c'est le verset que Raphaël a utilisé quand je me suis converti. « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de sa bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Il a prêché là-dessus. Et le verset d'après, c'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaisse et que l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Eh bien voilà. Dieu est en train d'accomplir cette prophétie. Pendant des centaines d'années, il n'y a plus de miracles. C'était les ténèbres, c'était le Moyen-Âge, ensuite il y a eu la Renaissance. Je vous ai prêché sur toutes ces choses-là, mais les gens priaient dans les églises, mais il ne se passait rien du tout. Même on disait les miracles, le temps des miracles est fini. Dieu a fini de faire les miracles avec les apôtres. Après, c'était terminé, il n'y avait plus de miracles. Moi, je me rappelle que quand je me suis converti, j'avais été à la librairie chrétienne à Paris et j'avais rendu témoignage et le vendeur s'était tourné vers son copain et a dit « Ouais, c'est bizarre, il y a des conversions qui se passent même dans ces réunions sataniques. » Voilà, s'il y a des miracles, c'est obligé que ça soit Satan, comme si Satan était plus gentil que Dieu et guérit. Satan guérit les malades, hein. Vous voyez, il est plus gentil que Dieu. C'est intelligent. Ces gens-là prient, mais ne s'attendent pas à être exaucés. Donc, ils ne sont pas exaucés. Ils n'ont pas cette foi, parce qu'ils n'ont pas cette révélation. Mais là, maintenant, depuis qu'il y a eu cette révélation dans ce petit bosquet, dans ce bois en 1820, la prophétie d'Ésaïe se réalise. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Je me suis converti chez les pentecôtistes avec Raphaël Duval, qui est un pentecôtiste. Enfin, il était, puisque maintenant il est parti vers le Seigneur. Il doit être bien content d'être là-haut, parce que, dis donc, parce qu'il s'en est vu sur la terre avec les religieux, lui aussi. Les pentecôtistes m'ont raconté, déjà en 1968, qu'avant eux, c'est-à-dire qu'avant 1906, personne n'exerçait les dons spirituels, qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12, 7, 10. Que c'est depuis qu'il y a eu le réveil pentecôtiste en 1906, que Dieu refait des miracles de nouveau, que les dons spirituels se remanifestent. Et ils s'attribuent à eux la gloire de cette chose-là. Ils m'ont menti, soit volontairement, soit par ignorance. Je veux croire que c'est par ignorance. D'ailleurs, ce n'est pas difficile, la plupart sont des gens très simples et qui n'ont pas étudié. Ils ont fait 6 mois d'école biblique et ils disent qu'ils ont fait de la théologie. Voilà, donc ce sont des gens qui ne connaissent pas, et voilà, je pense que c'est par ignorance qu'ils m'ont menti. Pourquoi je dis ça? Parce qu'eux disent que c'est à partir du moment où le pentecôtisme est né en 1906, là-bas aux États-Unis, que les miracles ont commencé, alors que les mormons exercent tous les dons surnaturels depuis les années 1820. Mais tous les dons. Les mormons parlent en langue, les mormons prophétisent, les mormons ont le discernement des esprits, les mormons ont des guérisons miraculeuses, ils ont des résurrections. Ils n'en font pas un tapage médiatique comme les pentecôtistes, mais tout cela existe depuis les années 1820 chez eux. Et c'est au travers de ce jeune homme, Joseph Smith, que les fondements de l'Église rétablie ont été jetés, et puis ensuite, sur ces fondements, les successeurs ont bâti. Et William Branham est un de ses successeurs qui a même été annoncé par prophétie par les Mormons. Ensuite, T.L. Osborne était le fils spirituel de Branham et Raphaël était le fils spirituel d'Osborne. Et vous connaissez l'histoire. Nous sommes de cette lignée, mes frères et sœurs. Alléluia! Alléluia! Et ça, ça s'invente pas. En 17 ans, mes frères et sœurs, j'ai lu tout ce qu'on peut lire contre les Mormons sur Internet. Et il y en a, je vous prie de me croire. Si vous avez du temps à perdre, amusez-vous à faire ça. Vous allez perdre un temps précieux, mais si vous avez du temps à perdre, faites-le. Pas pendant 17 ans, il vous suffira de faire ça pendant quelques temps et vous allez tout de suite vous rendre compte que vous avez affaire à une bande de mesquins religieux, à des méchancetés gratuites, à un manque d'intelligence spirituelle et d'intelligence tout court. Ce qu'ils disent contre les mormons, ils le disent contre les branhamistes, ils le disent contre les pentecôtistes, ils le disent contre les baptistes, ils le disent... Tout le monde critique tout le monde tout le temps. Moi, j'en ai marre. J'ai pris ce qu'il y a de bon chez tout le monde, et puis je les laisse vivre. Je m'en fous. Je ne veux pas être baptiste. Ce n'est pas parce que je ne les aime pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides. C'est pas... Non, c'est pas... je ne veux pas être baptiste parce que j'ai trouvé mieux. Je ne veux pas être pentecôtiste parce que j'ai trouvé mieux. Et c'est tout. Demandez plutôt à Dieu, plutôt d'aller chercher sur Internet. Allez chercher sur Internet pour vous amuser un petit peu. Mais surtout, demandez à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si ces choses sont vraies ou pas. Alors, est-ce que je suis d'accord avec tout ce que je lis dans le livre de Mormon ? Non, bien sûr que non, pas plus que je ne suis d'accord avec tout ce que je lis dans la Bible, parce que j'y trouve des contradictions flagrantes, hein, comme par exemple, je vous disais, vous pensez qu'il n'y a pas de contradiction ? Je vous mets au défi de lire dans les quatre évangiles le récit de la résurrection de Jésus-Christ. Et si vous êtes honnête, vous allez dire, ben oui, c'est vrai, en effet, il y a des contradictions. Ou alors, taxez-moi de faux prophètes, oubliez-moi et allez écouter n'importe qui d'autre. Moi, je refuse de rejeter un livre parce que j'y trouve des choses que je ne comprends pas bien. Je vais vous dire, quand j'avais 10 ans, il y avait des choses que je ne comprenais pas, que je comprends maintenant que j'en ai 66. Pourquoi ? Parce que celui qui cherche, il trouve. C'est tout. C'est tout. Mais si vous ne cherchez pas, est-ce que vous avez déjà essayé de lire au moins un passage du livre de Mormon ? Je suis sûr que tous les chrétiens qui m'écoutent là sur Internet, il n'y en a pas un qui a essayé, si j'en connais une, qui me l'a dit. C'est Liliane. Elle m'a dit qu'elle l'a depuis des années, elle le lit. Autrement, je suis sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens sur les Mormons ? Oui, ils sont polygames. Faux. Ça fait plus... C'était en 1889 qu'ils ont arrêté d'être polygames. Parce qu'ils ont compris que ce n'était pas juste, ce n'était pas bien. Ils ont fait une erreur. Et alors, qui n'en fait jamais ? Vous allez leur en vouloir pendant des centaines d'années encore pour une erreur qu'ils ont commise pendant une quarantaine d'années ? Mais quand même, il faut arrêter. Faut arrêter. Qu'est-ce que vous connaissez des Mormons ? Alors, vous faites un interview dans la rue, vous allez demander aux gens, qu'est-ce que vous savez des Mormons ? Ah ! Alors, ils vont vous dire, oui, c'est ceux qui vivent encore comme au 18e siècle. Non, ça, c'est les Amish. Ah bon ? Ah, d'accord. Vous me dites, qu'est-ce que c'est les... est-ce que vous connaissez les saints de l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours ? Oui, c'est les témoins de Jéhovah, non ? Ou alors, attendez, non, non, c'est les... C'est les adventistes du septième jour ? Non, ils ne savent rien. Et ils se permettent de juger et de condamner. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas. Alors, pour terminer, je vais vous demander de regarder le film que j'ai mis en première page sur notre site. Je vous demanderai de regarder ça. C'est un résumé, ça dure à peu près 1 heure, de l'histoire de Joseph Smith. Je vous demanderai de regarder ça, et puis de prier, et puis de chercher la pensée de Dieu, et de chercher à comprendre, et puis essayer de vous procurer un livre de Mormon. Il l'offre en plus, c'est gratuit, vous pouvez l'avoir gratuitement. Et si vous ne savez vraiment pas comment faire, ben vous m'écrivez, puis je vous en enverrai un gratuitement aussi. Donc vendredi prochain, on ira plus loin et on cherchera à comprendre où on en est encore et où est-ce qu'on va aller avec toute cette somme de révélations et de choses merveilleuses que le Seigneur nous donne. Amen. Vendredi prochain, donc, ça sera la suite. Regardez ce film que j'ai mis, donc, enfin, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est Eric Jacques qui l'a mis. Sur Révélation Bible, et moi je l'ai vu 2 fois, je vous promets, je l'ai fait voir hier à mon épouse et à Dominique. Michou, elle a pleuré tout le long, c'est bouleversant, c'est vraiment magnifique. Voilà, eh bien, que Dieu vous bénisse, et puis si vous êtes choqué, si vous m'aimez plus à cause de ça, ben, tant pis, c'est pas grave, je m'en remettrai. Voilà, simplement c'est dommage, hein, parce que. Moi, j'aime bien être aimé comme tout le monde, mais ce que j'aime le plus, c'est Dieu, et je veux dire la vérité. Si à cause de l'affection de certaines personnes, il faut que je cache la vérité, il faut que je prêche avec la langue de bois, à ce moment-là, non, je ne suis plus Michel Janton. Voilà, je pense que vous me connaissez, vous qui venez sur Révélation Bible, et puis qu'en fait, vous appréciez bien le fait que je dise ce qui est vrai. En Afrique, ils m'appellent le pasteur qui crache la vérité. Et ils m'aiment bien pour ça, hein. Les pasteurs râlent un peu, mais quand même, ils me réinvitent toujours. Pourquoi? Mais parce que Dieu bénit, hein? Dieu bénit, voilà, c'est tout. Alors, s'il y a la bénédiction de Dieu par derrière, c'est comme du temps des apôtres. Jésus était avec eux, confirmant ce qu'il disait par des signes, des prodiges et des miracles. Et ça, la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée à partir de 1820 et non pas de 1906, comme le disent les pentecôtistes assemblés de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, maintenant je ne vous demande pas d'adorer Joseph Smith, je ne vous demande pas de croire dans le livre de Mormon comme si c'était un livre infaillible. Pas du tout, pas du tout. Je vous demande simplement d'être intelligent, de chercher afin de trouver et de demander surtout au Seigneur de vous conduire. Parce que si ce que je vous dis c'est vrai et vous passez à côté, ça pourrait être quand même très embêtant pour vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus de nous aider à comprendre ces choses et d'aller de l'avant et d'oser être vrai, d'oser être non pas sectaire, borné, mais d'être vrai, d'être authentique. Je te demande, mon Dieu, de pardonner tous ceux qui m'ont abandonné à cause de cela. Et je te demande, mon Dieu, de leur parler, de parler à leur cœur, de leur montrer que, bon, est-ce que ça valait vraiment la peine d'abandonner notre amitié à cause de cela. Et merci Jésus de leur parler, de raisonner leur cœur. Merci mon Dieu. Amen.
Amen.
Amen.